te, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal de vivre. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatal, pas du tout. On ne la considère pas fatal. Et en petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, c'est l'école Y à Montpellier, Canassu à Toulouse et Radio Politique sur Reims. Grégor est le parole à l'anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Normalement, on devrait avoir quelqu'un qui devrait nous parler de Kider. Kider, c'est cette personne qui vient d'être condamnée à 15 ans de prison, qui est libérable en 2052, qui d'ailleurs a été interviewé dans le journal du dimanche, le JDD, d'hier, de week-end dernier. Donc normalement, ça devrait marcher avec Jérôme, je crois, c'est ça.
Oui, on est normalement avec Olivier au téléphone.
Olivier.
Tu nous entends?
Apparemment.
Alors, on va essayer techniquement, voir. Espérons qu'il n'a pas raccroché.
Alors, Olivier, c'est la personne qui a assisté au procès de
Kida. Ouais. Donc, je vais essayer de rappeler, on va recommencer. Vas-y.
D'accord. Bon. Alors, dans cette interview du JDD, c'est rare qu'à l'émission de Grégor, on vous lise un article du JDD, mais c'est une interview de lui, où le journaliste, d'ailleurs, dit au départ qu'il a été condamné effectivement à 15 ans de prison supplémentaire, ce qui fait qu'il est libérable en 2052. Il raconte un peu sa vie judiciaire, dirons-nous, qu'il est tombé pour la première fois à 17 ans et que depuis 1995, je crois, il a été tout simplement seulement 3 ans sans être en prison, si mes souvenirs sont exacts. Non, c'est de 92-95, l'homme libre. Ça s'est résumé à 3 années. Alors normalement on doit avoir oui, alors je sais pas si ça va se faire ou pas. Ce soir c'est un peu la galère, hein. Bon, tu dépêches s'il te plaît. Tu dépêches.
Allô Olivier, est-ce que tu es là?
Allô, ouais. Je t'entends très mal.
D'accord, c'est normal.
Parce que j'ai pas de micro, c'est normal. Donc là, maintenant tu dois m'entendre nettement mieux, je pense.
Ouais, je t'entends.
Bon, alors après toutes ces péripéties techniques, on va enfin pouvoir venir quand même au sujet qui nous intéresse. Donc il y a 15 jours, tu nous avais raconté un petit peu le déroulement du procès de Christophe Kider et de Omar Top El Hadj, qui, rappelons, ont essayé de s'arracher, ont même réussi à s'arracher, malheureusement pas assez longtemps. Et ce procès est aujourd'hui achevé et il y a eu le rendu vendredi soir. Alors, quel est ce rendu, puis quel est toi ton sentiment par rapport à ces 3 semaines?
Alors, c'était jeudi.
Pardon.
Et c'est pas grave. Et donc le verdict a été le suivant 5 ans pour Nadia et Sylvie, les deux filles, et 5 ans pour Baël. Tous les trois étaient accusés de complicité, hein, pour l'ensemble des délits et l'évasion est connecte à l'évasion, c'est-à-dire les prises d'otages, etc., les dégradations, enfin tout ça. 5 ans.
Ouais.
Et puis 15 ans pour Omar, 15 ans pour Christophe.
D'accord. Donc 5 ans, c'est ce qui veut dire que les filles sortent, puisqu'elles avaient déjà effectué 4 ans, c'est ça ?
Elles ont effectué 4 ans et 3 mois, et 2 mois, enfin 2-3 mois, donc elles ont fait 50 mois. Donc évidemment, ouais, elles sortent. Sur 60 mois, évidemment, elles l'ont remise de peine, mais il faut attendre le délai des 10 jours.
Pour l'appel, hein.
Ouais. Pour l'appel, parce que le parquet peut faire appel. Les filles ne feront pas appel, c'est sûr, et Christophe et Omar non plus.
D'accord, bon, c'est... ouais.
Donc maintenant, il n'y a que le parquet, parce que c'est sûr que par rapport... Les réquisitions du parquet étaient beaucoup plus fortes.
Ils demandaient combien ?
C'était 9 ans, donc, pour les filles et Baeb, et de 20 à 22 ans pour Christophe, et de 18 à 20 pour Omar.
D'accord.
Donc, c'était donc, voilà, ça a baissé de 5 ans pour les garçons, et ça a diminué de moitié, pratiquement, pour les filles.
D'accord.
Donc, c'est sur cette moitié qui peuvent faire appel. Ouais. Mais bon, on va voir. En tout cas, les deux profs qui étaient là, eux, ils ont dit de leur propre chef qu'ils le feraient pas, mais c'est le parquet général qui décide. Hein,
ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, donc bon, ça fait une petite éclaircie dans ce ciel un peu sombre, mais bon, voilà, il y a quand même 15 ans pour Christophe et hommage.
Super lourd.
Ben ouais, surtout que c'est des peines confusionnables. Hein. C'est pas confusionnable, pardon, donc c'est des peines qui s'ajoutent.
Non confusionnable, ouais. Attends, ça veut dire que là, Christophe, maintenant, avec ça, il est sur le papier libérable en 2053. Tu vois le truc.
Oui, le JDD, je sais pas si t'as vu l'interview, j'en parlais tout à l'heure.
J'ai vu, d'ailleurs, l'interview, elle est bien.
Oui.
Parce que c'est sûr, hein, ça, on peut le confirmer, parce que voilà, on était. Il y a vraiment eu un coup de téléphone entre le journaliste là du JDD, Joanny, qui est monsieur fait divers du JDD. Mais là, voilà, là, il a commencé à parler avec Christophe au téléphone, et puis ça lui a plu. Et donc, il a vraiment reproduit fidèlement le coup de fil qu'il a eu avec lui. Les commentaires du début, on s'en fout, mais après, tout le reste, chaque fois que Christophe parle, voilà, c'est ça.
Ouais.
Et c'est l'ambiance qu'on a eue, nous, à la fin du procès. Hein.
Pour les auditeurs, on décrit, c'est une interview donc de Christophe Kider, hein, depuis sa prison, qui fait 3 pages à 4, donc c'est quelqu'un qui est accusé de quelque chose et qui parle de manière très claire et quand même assez libre. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, puisque le JDD c'est quand même un journal à gros tirage, quoi, que quelqu'un puisse prendre la parole dans ce genre de journaux. Et comme tu dis, ça témoigne effectivement de l'ambiance du procès, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est parfaitement réfléchi et qui explique avec des arguments qui sont, ma foi, fort peu contestables, quoi.
Ah ouais. Tu sais, quand à la fin du procès, le dernier moment, et là pour eux c'était le dernier matin, c'était le jeudi matin, avant que le juré, les magistrats se retirent pour délibérer, la parole est donnée aux accusés toujours. La dernière parole est toujours donnée aux accusés. Et tu m'entends là ?
Ouais, tout à fait, ouais.
Et donc ils en ont chaque personne a parlé. Bon, Sylvie et Nadia, elles ont dit des choses, elles ont parlé de leur envie de sortir, de leur envie de vivre rapidement, parce qu'elles ont bien compris que là, c'était possible. Puisque même les parties civiles, dans leur plaidoirie, et certains témoins des parties civiles, avaient demandé à ce que les femmes sortent. Parce qu'ils disaient que leur place n'était pas en prison, enfin bon, voilà. Donc là-dessus, il y avait un espèce de consensus, qui disait qu'elles sentaient qu'il y avait une possibilité. Donc, elles ont fait des déclarations tranquilles. Baeb, lui, il a fait des déclarations, mais comme on comprend jamais rien à ce qu'il raconte, c'est vraiment très brouillon. Il dit à peu près, mais c'est vrai, hein, il dit beaucoup de bêtises et puis c'est compliqué de faire le tri, quoi. Très compliqué. Et ensuite, il y a eu Omar et Christophe.
Alors, Omar a parlé ?
Omar, mais non, attends, parce que Omar, non seulement il a parlé, mais il a vraiment parlé. Il avait déjà commencé pendant le procès au moment où ils ont voulu étudier sa personnalité, tu sais. Et comme lui, il avait rien dit pendant l'expertise psychiatrique, d'ailleurs c'était rigolo parce que du coup le psychiatre il en avait déduit un comportement asocial, et Omar il a commencé par dire, il a dit non mais le mec c'est pas moi, lui je l'aimais pas, j'ai pas aimé comment il est arrivé, etc. Et de ça il en a conclu que j'aimais personne. C'est assez marrant. Et mais en revanche il a dit, mais puisque vous voulez que je vous parle, moi je vais vous parler, je vais vous raconter ce qui m'a conduit à ce qui se passe pour moi aujourd'hui. Et il a pris son temps pour tout ça, en leur expliquant bien que sa vie n'était pas un casier judiciaire, contrairement à aux pratiques, enfin toi, à ce qui se raconte dans les tribunaux. Et il a parlé longtemps, il a parlé la première fois déjà, il a bien parlé une heure et demie. Et puis bon, au bout d'un moment, le président lui a coupé la chic au bout de 7h30 et est revenu à son casier judiciaire. Et là donc, au moment où il a pu reprendre la parole à la fin du procès, il a dit bon, vous m'avez coupé la parole la dernière fois, mais là puisque j'ai la possibilité de le faire, je vais reprendre. Il a repris exactement là où il en était resté pendant le procès. Et là il a reparlé pendant 3/4 d'heure. Mais tout ce qu'il racontait, c'était super intéressant. C'était raconté, c'était brouillon, c'était etc. Mais c'était super intéressant. Tu voyais vraiment le parcours d'un jeune homme et comment voilà comment il est passé de son adolescence à des délits. Pourquoi la famille, mais raconté par lui. Et puis ensuite, c'est arrivé en prison. Le fait de plus vouloir y retourner, enfin, et ça, et le fait de comme ça, de ça, c'est un classique, hein, donc de surenchère ensuite dans les délits, et puis jusqu'à prendre des peines, des grosses peines de prison, dont tu sors plus après. Et tout ça, vraiment, il est toujours jeune, Omar, il a 34 ans aujourd'hui, hein, il n'est pas vieux. Mais là, à nouveau, ils ont essayé de lui couper la parole. Et quand je dis « il » au pluriel, c'est parce que même son avocate est vraiment une crapule. Vraiment un cabinet de crapules, tu vois. Son avocat en titre, c'est Lombroso. C'est le mec qui a fait éditer un bouquin chez Flammarion.
Avec
lui. Ce bouquin, c'est vraiment une merde.
C'est un truc de misérabilisme.
Omar, il a dit pendant le procès, bon, bah, de toute façon, c'est que du roman. C'est tout inventé. Et Lombroso, il est venu en tout et pour tout, pendant tout le procès, pendant une demi-journée.
Oh la vache.
Il s'est récupéré tout l'argent de l'aide juridictionnelle, il s'est récupéré 3 chèques de 5000 euros de Flammarion pour le bouquin, et il s'est récupéré 20% des ventes du bouquin. Oh. Omar, il n'a pas vu une thune de tout ça, pas un mandat, rien du tout. Donc j'ai pour te dire, toi.
Ouais, bah justement, ça va être l'occasion de lui faire une contre-publicité, puisque ce genre d'avocat, en général, aussi se sert de ses affaires, de ses grosses affaires, pour se faire des publicités. Donc effectivement, c'est bien de dire ce truc, quoi. Et,
c'est
incroyable ce que tu racontes. Une demi-journée, hein.
Elle est née une demi-journée, prétextant qu'il avait mal au cou, la pauvre bichette. Et il a plaidé, il est reparti. Il avait assisté à rien du tout des débats. Il a fait une plaidoirie, mais alors nullissime. Il s'est pris pour le mélange de Badinter et Victor Hugo. il est parti dans des grandes envolées lyriques, mais là, je veux dire, il n'avait aucun sens, mais rien du tout. Il s'est mis en valeur. Enfin, il a parlé de lui, ouais, comme souvent il faut. Mais bon, mais là, c'était vraiment. Et donc, il a laissé, comme il avait fait pendant tout le procès. Il y en avait deux, là, c'était la deuxième, son assistante, pour assister au débat, puis ensuite, pour rester jusqu'à la fin. Et c'est son assistante qui, pendant la déclaration de Omar, à la fin du procès, a demandé au président type à faire son client. Truc de dingue. Au lieu de le défendre et de dire « laissez parler mon client », c'est elle qui a demandé à ce qu'on le fasse taire.
Ouais.
On est des verts. On est tout le monde, on est des verts. Après, et on est hurlé dessus. Une fois qu'on est, tout le monde est sorti, on est hurlé dessus. Mais donc après, c'était facile pour le président. Le président a dit, même votre avocate me demande de vous faire taire. Donc Omar, il a dit, non, mais j'ai pas l'intention de me taire. Terras fait monter. Le président lui a dit, écoutez, je vous laisse plus que 5 minutes. Et Omar, il a regardé, il a dit, mais il va me coller 2000 ans de prison. Et il me laisse 5 minutes pour parler. Il dit, mais il est ouf ce mec, quoi.
T'as le temps, quoi.
Et du coup, le président, il a dit expulsion pour Omar. Il s'est fait emmener par 4 bondés, qui l'ont porté, hein, pour l'emmener. Et voilà. Bon, évidemment, nous, on a tous hurlé, mais c'était fait. Et ensuite, donc, Christophe a pris la parole. Christophe était très énervé de ça. Il leur a dit, vous avez rien compris. Là, vous aviez devant vous, le désespoir qui arrivait à se dire. Mais seulement comme vous n'avez pas le décodeur, vous connaissez rien, vous comprenez pas. Et ensuite il a dit, je vais parler du coup, j'avais pas l'intention de parler, il avait dit à Delphine, son avocate qui était là, et Bernard, qu'il parlerait pas, puis finalement il a parlé, et il a parlé non pas de lui, mais d'amis à lui, Fredo et Philippe. Il a dit, mais c'est des amis entre autres, hein, il y en a plein des comme ça. Et il a raconté l'histoire de Fredo, qui est un gars avec qui il était à Clairvaux pendant un certain nombre de temps. Fredo, il avait déjà 20 ans de prison derrière lui, mais il avait encore l'œil qui pétillait, il était encore battant, quoi.
Ouais.
Il commençait à calculer un petit peu ses remises de peine, tout ça, mais il était encore plein de jus. Et Christophe a été transféré, il est revenu à Clairvaux 6 ans plus tard. Et le Fredo, il était encore là. Et quand Christophe l'a retrouvé, il a dit qu'il l'a pas reconnu. Il n'y a que sa voix qui lui a permis de se reconnaître. Donc il l'a secoué, il lui a dit, mais Fredo, mais qu'est-ce que tu fais? Mais reprends-toi, tu vois pas, t'es devenu une loque, etc. Et il a dit à la cour, il a dit, après je me suis demandé pourquoi je m'étais énervé comme ça. Il a dit, je sais pourquoi je me suis énervé parce que j'avais devant moi ce qui pouvait devenir mon miroir. J'avais devant moi ce que peut-être moi j'allais devenir. Mm-hmm. Et je faisais pas attention. Et donc il leur a redit, c'est pourquoi, là, je donne 20 ans de ma vie pour un délit, pour lequel, en 99, le ministère public avait demandé 20 ans. Donc je suis prêt à donner, voilà, je donne 20 ans de ma vie. Aujourd'hui ça fait 18 ans que je suis en prison. Dans un an, il va falloir commencer à calculer, etc., comment ça va se jouer. Parce que une fois que je serai arrivé à 20 ans, et ben à ce moment-là, je briserai ce qu'il y a de meilleur en moi, pour devenir ce à quoi vous me faites ressembler. Et là, ce jour-là, ce jour-là, ça sera le début de la guerre. Et il les a regardés droit dans les yeux, il a dit, je vais vous faire le remake des Thermopyles. C'est les Thermopyles, c'est la guerre des
Spartiates qui gardent, ouais, c'est ça. Ouais. Qui préfèrent se laisser massacrer plutôt que de céder, quoi.
Mais quand il a dit ça, il y a eu un frisson qui a parcouru tout le monde, hein. Et en fait, ce qu'on a vu par la suite, c'est que quand même les jurés et certainement aussi un assesseur ou une assesseuse a dû être vraiment touché par tout ce qu'il avait dit, parce qu'il y a des gens qui semblent avoir compris qu'effectivement les longues peines posaient un problème. Voilà, ça c'est sûr. Là, on le sait. Il y a des gens parmi la cour là. Qui ont été pas complètement retournés, mais qui ont été sensibilisés. Voilà. Mais bon, c'est ce qu'on se disait en sortant, hein. On est content pour les filles, mais on a appelé ça l'amertume du soulagement, tu vois, parce que parce que ça reste un délire, hein, ça reste un délire. Même 5 ans pour les filles, c'est super lourd, en vrai.
C'est clair.
Et bon, il se trouve qu'elles ont déjà, la période a été faite, donc du coup tu la regardes différemment, mais bon, c'est super long, il n'y a aucune raison. Et 15 ans pour les garçons, il y a...
C'est la folie. C'est la folie, c'est ce que tu disais, hein, 2052, 2053, il n'y a rien.
Le seul blessé, c'est Christophe, enfin bon.
Enfin, quand même le dire, hein, Christophe Kider, ce mec, il a été condamné pour la première fois, il avait 17 ans. Depuis l'âge de 17 ans, quoi, il en a 41, il a eu que 3 ans de liberté, quoi. De 92 à 95. En 95, il est condamné à 30 ans, quoi. À 30 ans.
Voilà.
Donc, il est né en 70, il a 25 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? 30 ans dans la tronche, quand t'as 25 ans, quoi. Ça va même au-delà, parce que même Bilger, à l'époque, qui est quand même, on va pas dire, pas le plus grand humaniste du monde,
ouais.
Et je pèse mes mots, il avait demandé 22. Alors déjà, tu vois l'aplomb quand même qu'il faut pour regarder un mec de 25 ans et lui dire, monsieur, vous avez passé les 20 prochaines années de votre vie, certainement les plus belles, en tôle, entre quatre murs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que, de toute façon, c'est la question que j'allais poser, elle est un peu pessimiste, est-ce que c'était possible de gratter quelque chose dans cette enceinte? Je parle au niveau de la peine, hein.
Eh ben, en fait, a été gratté tout ce qui pouvait être gratté.
Ouais.
Ça, c'est sûr. On peut, parce que c'est la logique, elle est partout, hein. Il n'y a pas de cour d'assises. Enfin, ou alors, ça aurait été vraiment une exception, mais aucune cour d'assises aurait mis moins de 15 ans. Et aucune cour d'assises aurait mis moins de 50, parce que la coutume, là, elle est à distribuer des peines de fou, quoi. Et donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de faire appel. Ils vont se retrouver à revivre un procès qui est très, très fatigant pour eux, hein. Faut le savoir. C'est des conditions terribles, toi. C'est 3 semaines de quartier d'isolement, 3 semaines où tu dors pas, 3 semaines tu bouffes pas, 3 semaines tu es réveillé à 5 heures, 3 semaines pendant lesquelles des matons, parce que tu n'es pas dans une prison que tu fréquentes, d'une prison dans laquelle, comme ils te voient tout le temps, les matons, ils sont obligés de faire gaffe avec toi, parce que ils savent que s'ils dérapent, ça va être chaud pour eux, là, ils en auront un à foutre, tu vois. Donc là, ouais, non, là, c'est pour ça que ça vaut pas le coup de faire appel. Et ça veut tout dire, hein, ça veut dire que, c'est vraiment pour ça que c'est une sacrée amertume, ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, tu prends 15 ans pour ça, c'est pas cher payé, c'est complètement délirant.
Oui, tu m'étonnes. Tu vois le processus intellectuel sur lequel ça nous amène en se disant, mais en fait c'est pas si mal. Mais en fait, là, t'as raison, le truc de pas faire appel fait que finalement c'est quand même Christophe qui a le dernier mot dans cette histoire, puisque c'est lui qui a parlé en dernier. Et puis on l'a dit quand même, cette interview au JDD, c'est quelque chose, quoi. Quand même, on la publiera nous sur notre site, parce que c'est tellement rare que ça mérite d'être lu. Et de l'autre côté, l'avocat de Christophe, c'était Ripper, maître Ripper de Grenoble, qui lui est quand même quelqu'un qui est connu pour faire à la fois des procès de l'institution judiciaire, de la question carcérale et puis de la société qui l'a produit. Comment ça s'est passé, lui?
Ah, super bien, il a assuré comme une bête, Ripper, tout le temps, il a assuré pendant les audiences à faire tout le boulot de SAP qu'il pouvait faire. Et puis, il connaît le dossier, il connaît très très bien le dossier. Il a rien laissé passer, tu vois, à chaque fois qu'il y avait des conneries qui étaient dites, des mensonges même, comme ils ont l'habitude de faire, hein. Et à chaque fois, il pouvait les coincer parce qu'il connaît le truc sur le bout de ses doigts. Et dans sa plaidoirie, qui a duré 4 heures, où il a évidemment attaqué tout ce que tu as dit, tu peux rajouter les flics, hein. Il n'aime pas les flics. Quoi.
Il a fait des tarifs de groupe, ouais.
Il les a tous épinglés. Et puis ensuite, il a montré que dans le dossier, en fait, quasiment toutes les inculpations ne tenaient pas la route, sauf que tout ça, ça ramenait l'ensemble des faits à un délit d'évasion, tu vois. Et voilà, avec un petit peu plus, mais pas quelque chose. C'est en tout cas pas une peine à deux chiffres, comme on dit, tu vois. Ça, c'est sûr. normalement, quoi, même avec le code pénal. Avec juste le code pénal, si on n'est pas dans ce moment-là, où c'est un moment qui dure depuis longtemps, puis il n'arrête pas de s'aggraver, mais où les peines sont complètement délirantes, parce que je sais pas, moi, parce que comme tu sais, t'achètes une maison, aujourd'hui, tu mets 30 ans à la payer. Donc les gens, ils se disent 30 ans, après tout, c'est pour eux, c'est un laps de temps qu'ils comprennent.
Ouais.
Ouais, moi, je sais pas, je me dis des trucs comme ça, tu vois.
Ouais, pour mesurer, ouais.
Comment on fait pour imaginer ce truc 30 ans?
C'est inimaginable. C'est pas possible. C'est pas possible, déjà moi la semaine prochaine, mais même en plus par rapport à la transformation physique, par rapport... Non, c'est... En plus, qu'est-ce que ça veut dire pour l'individu qui subit ça? C'est l'incapacité de se projeter sur quoi que ce soit, et voilà. Et tous les gens qui chialent ou qui se sentent outragés par le fait que justement on parle de ça, nous on s'en fout de ce qu'il a fait, c'est pas le problème, c'est vraiment pas le problème. Le problème, c'est la question des longues peines, et la question des peines, c'est à quoi ça sert la prison.
Bah, la vraie question, c'est pas à quoi ça sert, parce que ça, on sait, ça sert.
Nous, les réponses, ouais.
C'est à qui ça sert, ah. C'est ça, la vraie question. Et là, on sait que ça sert à du monde, là.
Tout à fait, oui, ça c'est vrai, tu m'étonnes. Ouais. En plus, ça rapporte un peu d'argent pour certains, donc...
Ça rapporte de l'argent, ça maintient une espèce de trouille générale, ça punit ceux qui contreviennent, épisodiquement ou même une seule fois aux lois, et ça élimine ceux qui refusent vraiment de plier. Hein. Ça, voilà. Donc ça sert aux nantis, la prison, depuis qu'elle existe. Hein.
Tout à fait.
Sinon, aux gens qui sont enfermés, elle sert à rien du tout. Ça.
Ça c'est sûr. Ben comme le dit Christophe, hein, la première fois qu'il a touché un fusil d'assaut, c'était en prison. La première fois qu'il a découvert des explosifs, c'était en tôle. Donc merci, hein. Y a pas de souci, y a pas d'angoisse. Hein. Voilà quoi. Est-ce que dans le procès qui a eu lieu à Lyon, a été fait mention de l'évasion de Faïd, hein, de Redouane Faïd?
Ouais, bien sûr, ils ont été obligés de le faire.
Bah, tu m'étonnes.
Mais là, en même temps, ils sont dans la merde avec cette évasion, hein. Parce qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait en disant, bon, on peut pas trop en parler. Parce que là, ils sont tout merdeux. Il y a que l'avocat de l'UPAP, de Parti Civil, donc, évidemment. Ouais. L'UPAP, le syndicat majoritaire des surveillants, proche de l'extrême droite. Lui, il a commencé, quand il a fait sa plaidoirie, il a quasiment fait une espèce de discours syndical. Parce qu'ils savent très bien, que là, pour le coup, comme Redouane, il a ramené le matériel de sa cellule, c'est donc bien qu'il a réussi à le remonter en cellule. Et là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué de remonter du matériel en cellule. Ça veut dire qu'il y a vraiment une grande, grande chance qu'il y ait une complicité, soit chez les matons. Quelqu'un, un petit maton, style Crozis. La Crozis, c'était celui qui avait aidé d'une certaine façon, en compte de l'argent, bien sûr. Hein. Ferrara pour l'évasion de Fresnes.
Ouais.
Et ben là, il y en a un qui a dû s'arrondir une fin de mois aussi, c'est sûr. Donc ils sont dans la merde déjà, parce qu'ils savent qu'il va y avoir une grosse enquête interne, et que c'est donc, et tu sais, comme c'est. Après, ils font marcher leur syndicat, ces surveillants. Mmh. Parce que du coup, après, ils retombent dans une logique syndicale. C'est les petits contre les grands patrons de l'administration pénitentiaire. C'est ça qui nous a fait,
le défenseur des travailleurs de base.
Exactement, ouais. Exactement. Bon, donc oui, ça a plané là-dessus, mais fort. Mais là, faut dire, hein, je vous l'avais dit, mais. C'est vraiment chapeau à
tu m'étonnes,
Redouane,
hein. Tu m'étonnes d'une propreté et d'un sang-froid. Je sais pas si les gens se rendent compte. Alors il faut voir que ce mec a pris 4. On fait pas du gangstérisme, hein, on n'est pas en train de spammer des trucs qui se passent à la télé. On regarde juste que effectivement il met le nez dans la merde à l'administration pénitentiaire, parce que il remonte des flingues et il remonte des explosifs.
Ouais.
Il y a des parachutes dans les tôles. Donc les parachutes, c'est quoi? C'est des sacs plastoc qui passent par-dessus les murs et qui retombent doucement, ou alors des trucs emballés qui passent par-dessus les murs, quoi. Mais faut les remonter. Et effectivement, en un quart d'heure, il fait péter
Voilà quoi, donc ça veut dire que de toute façon, à partir du moment où t'as du fric et où tu as des moyens, la tôle, c'est magnifique. C'est très propre. Donc effectivement, ça met le nez dans la merde de l'administration pénitentiaire, parce que si elle veut aller jusqu'au bout, ça va foutre un sacré bordel. Ça c'est clair.
Ah ouais, ça va être le bordel. Bon, c'est déjà le bordel.
De toute façon,
c'est bien, ils l'ont pas rattrapé. Maintenant, ils vont pas le rattraper tout de suite. J'espère pour lui qu'il va pas déconner et qu'il va pas se remontrer. Après c'est
la vie, hein. Ça lui servira toujours qu'il en profite, quoi. Qu'il aille le plus loin possible et qu'il en profite. C'est toujours excellent, quoi. Je crois que, on va peut-être terminer en laissant la parole à Christophe et Christophe, dans le journal. Vas-y, je t'en prie.
Juste dire deux choses.
Ouais.
Vous le rappelez peut-être. C'est la première, c'est que donc, si on veut écouter les comptes rendus audio.
Ouais.
De l'ensemble du procès qu'on a fait jour après jour. Ils sont tous maintenant sur le site l'envoleux.net, tout accroché. Enfin, je dis l'envoleux parce que c'est l'envolé sans accent, donc l'envolé.net. Et d'une part et d'autre part, on vient de terminer le numéro 35 du journal, qui va être prêt d'ici la fin de la semaine, qui sera imprimé d'ici la fin de la semaine, et qui est exclusivement consacré à ce procès. Pour s'abonner, je le dis, hein, c'est en écrivant à l'envolée, 43 rue de Stalingrad, 93 100, Montreuil. Voilà.
Vous avez accompli un énorme travail, hein, c'est incroyable. Mais tu peux peut-être même expliquer ce que c'est l'envolée, puisque on mentionne souvent le journal ici, mais ici on a une maison d'arrêt à Robespierre, mais les gens savent pas forcément qu'est-ce que c'est l'envolée à Reims. Alors l'envolée, c'est un journal anticarcéral qui existe depuis quoi, 15 ans maintenant.
L'envolée, c'est un journal trimestriel anticarcéral qui est conçu par un ensemble d'émissions de radio associatives anticarcérales qui viennent d'un
appartement. Ah, je crois qu'il y a un problème technique.
Merde, donc je vais poursuivre ce que disait le camarade. Donc effectivement, c'est un journal donc qui est à la fois constitué par un réseau d'émissions de radio, mais qui aussi publie des courriers de prisonniers et des réflexions sur la prison. Tout cela dans une vision, comme on l'a dit, extrêmement anticarcérale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'envolée s'attache à produire une réflexion sur la prison, sur la société qui produit la prison, et donc en découle une prise de position qui est parfaitement claire. C'est donc contre l'enfermement et pour la destruction pure et simple de toutes les tôles et de tous les modes d'enfermement, quoi. Et donc l'envolée, c'est un journal qui a vocation à circuler à l'intérieur de la prison, mais aussi à l'extérieur, et donc à faire ce lien entre l'intérieur et l'extérieur. Puisque dans notre si belle démocratie, hein, normalement, les tôlards, normalement, c'est ce qui est écrit sur le papier, évidemment, ont vocation à pouvoir se procurer toute la presse qu'ils désirent. Évidemment, dans la pratique, c'est autre chose. Donc l'envolée, évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent pour s'y abonner, hein, ça coûte 10 € pour toute l'année, mais ça c'est un détail, et ça permet de faire fabriquer le, ça paye le papier, quoi. Mais bon, si jamais on a envie de se procurer et que on n'a pas de fric, parce que en tôle on n'a pas de fric, et évidemment le fric on préfère le conserver à d'autres choses pour continuer, et ben il suffit d'écrire 43 avenue de Stalingrad, c'est à Montreuil, c'est 93 500 Montreuil, ou si vous n'avez pas réussi à suivre, vous écrivez Allez Grégoire, boîte postale 12 13 51 053 Reims CEDEX. Votre postale 12 13 51 053 Reims CEDEX.
52
pardon, Reims CEDEX. Voilà.
Alors on va faire une pause musicale, je crois, maintenant.
Ouais.
Allez, maintenant, on va vous parler un peu de PSA, la lutte qui dure tout de même, malgré des soubresauts qu'il peut y avoir. Je crois que tu vas nous en parler, puisque tu en viens. C'est ouais. Pour ça que tu es en retard à notre émission. mais il y avait quelque chose ce week-end, dimanche, hier, non, fait, ouais. En solidarité avec ouais. La lutte de Peugeot.
Alors oui, PSA. D'abord, on va dire, on a reçu un coup de fil du bureau politique, c'est 51058, l'adresse de l'égrégore, voilà. Ouais, effectivement, ben PSA, 14e semaine de grève, 14e semaine de grève. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête plus. Est-ce que ça s'arrêtera d'ailleurs? Enfin, après des discussions et des visites régulières, il y a des complicités, des liens qui ont pu se nouer. Et on a eu le plaisir d'emmener, d'accompagner quatre grévistes de PSA à une réunion publique à Lille, parce que, ben, pour nous, on vous l'a déjà expliqué de maintes et maintes fois, ce qui se passe à PSA est très illustrateur du moment social qu'on est en train de vivre, et outre la solidarité de classe et de base qui est nécessaire de produire chaque fois, mais la solidarité, ça veut pas dire faire des collectes et faire de l'ouvriérisme béat en tapant des deux mains et en applaudissant en disant qu'est-ce qu'ils sont forts ces ouvriers. Ça veut dire utiliser leur mouvement, être dans leur mouvement pour poser des questions politiques et pour montrer et élargir la question de leur mouvement de grève et de leur situation particulière à une situation générale. On peut d'ailleurs déjà faire de la publicité pour deux rendez-vous, puisqu'il y a nos auditeurs toulousains et nos auditeurs et moi. Alors pour Reims, normalement, on en reparlera, mais le 6 mai, le lundi 6 mai, on devrait avoir une après-midi de discussion, de réunion publique avec les ouvriers de PSA, et puis le soir, on aura un égrégore dessus avec eux, hein. Vous pouvez passer à la radio si vous voulez les rencontrer, bien sûr, c'est toujours ouvert. L'égrégore, c'est rue Flodoard, hein, à côté de la rue Jean Jaurès. Et puis à Toulouse, ce sera le 11 mai, c'est le samedi 11 mai, où là, il y aura également une réunion publique avec des camarades solidaires et des gens en lutte dans les autres entreprises, puisque à Toulouse, il y avait les gens de Fricastel. Il y avait d'autres travailleurs, de travailleurs en lutte qui seront là pour discuter et échanger avec eux. Alors cette réunion à Lille, bien évidemment, étant donné nos moyens assez faibles, et puis évidemment vous pensez bien que quand on s'organise comme ça soi-même, on s'auto-organise, on n'a pas accès aux maisons des syndicats ou tout ça, et puis de toute façon on n'a pas envie, hein, on n'est pas au front de gauche, hein, nous c'est pas marqué dessus. Donc on était dans une petite librairie occupée. Occupé sans droit ni titre, de manière totalement illégale, on était une quarantaine, et les camarades de PSA, il y avait des syndiqués, il y avait des non-syndiqués, il y avait des gens de la CGT, il y avait des gens de Sud, ont tenu le crachoir pendant 2h30. Et c'est vraiment bien, parce que en faisant ça, outre le faire de faire de la publicité de la grève, hein, faut quand même noter que c'était la première fois qu'ils sortaient en dehors de Paris, hein, pour parler de leur mouvement, on a des militants de la grève qui sont en train de s'affirmer, qui sont en train de se construire. En plus, il y avait un des deux membres de la CGT qui était là, qui était originaire de Hénin-Beaumont, donc c'était juste à côté de Lille, qui donc a pu totalement parler en des termes choisis et qui touchaient au cœur la situation sociale et du Nord, quoi. Donc qui a vraiment pu parler de lui-même. Donc vraiment, on avait des gens qui il y avait des militants politiques, mais qui étaient pas du tout apeurés, qui ne démontaient pas, ils racontaient leur mouvement, racontaient leur grève, ils argumentaient, etc., etc. Et ça leur a fait un bien fou, et ça a fait un bien fou aussi aux gens qui étaient là de pouvoir échanger concrètement sans médiation sur ce mouvement, et puis sur la question du travail en général, et puis sur la situation sociale aujourd'hui, quoi. Alors c'est tellement bien que l'expérience, on va la renouveler. D'ailleurs, si y a des gens qui nous écoutent par l'intermédiaire d'internet et qui souhaiteraient organiser des trucs comme ça, on est à votre disposition, ça peut se faire. Faut que juste qu'on s'organise un peu, quoi. À ce moment-là, vous laissez, vous débrouillez pour nous contacter. Hein, vous êtes assez grand, vous pouvez passer par le site, par le blog, etc., etc. Les gens sont vraiment très disponibles à Aulnay et ils sont vraiment dans l'envie de communiquer là-dessus, quoi.
Est-ce qu'il y avait des gens d'autres boîtes?
Et malheureusement, les gens de Renault ont pas pu venir, donc ils se sont engagés à venir à Paris pour pouvoir échanger. C'est vraiment dommage puisque, de mon point de vue, c'est comme ça que la fameuse convergence dont les syndicats et les gauchistes nous rebattent les oreilles peut se construire. En plus, une convergence qui se fait entre des individus qui prennent des contacts et des gens qui sont en lutte, elle est beaucoup plus solide que des convergences d'appareils ou des convergences qui se font par le haut, quoi. Convergences qui se font par le bas, c'est toujours plus intéressant, quoi. Mais voilà, c'était juste un coup pour rien par rapport à cette discussion, mais ce sera eux qui viendront à Paris. Sinon, par rapport au mouvement là-haut, ce matin, moi j'ai été présent à l'Assemblée Générale.
Il y a des problèmes, apparemment.
Il y a des tensions. Il peut y avoir que des tensions après 14 semaines de grève. Parce que 3 mois et demi, avec bien sûr des gens qu'il faut qu'ils fassent extrêmement attention avec le pognon, quoi, même si le pognon y a, puisque quand même on peut dire que par rapport à cette fameuse opinion publique qu'il faut pas décevoir parce que gna gna gna, il faut séduire les médias comme d'habitude, vous savez, quand tous les ponts syndicaux jouent les parents et nous expliquent qu'il faut être raisonnable, ben là les médias ils en parlent pas de la grève, ils en parlent jamais, ou alors vraiment 30 secondes toutes les semaines alors que ça fait 3 mois que ça dure.
Quand il y a un truc spectaculaire,
ouais,
la dernière fois c'est quand il y avait l'espèce de conseil national du PS, je crois, samedi en 15 d'ailleurs.
Ouais,
c'est voilà, ça. Là, ils en ont parlé.
Une fois tous les 15 jours. Ben, quand même, il y a 1,5 million d'euros qui ont été versés en solidarité par des gens de ci, de là, qui prennent leur stylo, leurs petites économies, et qui se privent un peu pour envoyer du fric aux grévistes. Pas rien, hein, quand même. C'est quand même énorme, quoi.
C'est énorme.
Cette solidarité, ça veut quand même bien dire que ça renvoie quelque chose, hein, par rapport aux gens, hein, tout ça. Hein. Donc c'est vachement important. Alors évidemment, il y a des tensions. Il y a des tensions qui sont exacerbées en plus par les divisions syndicales, parce que malgré tout, et c'est ça aussi un petit peu le problème à Aulnay, c'est que ce fameux comité de grève et cette assemblée générale, eh ben elle reproduit à la fin, elle se sclérose parce que elle est pas dans la dynamique, mais et puis c'est difficile parce qu'il faut aboutir à quelque chose, ben elle se sclérose et elle reproduit les divisions syndicales. Alors ben voilà, cette semaine le syndicat sud de l'entreprise a dit qu'il ne voterait pas la grève, n'a pas appelé lui-même à la reprise du travail, parce que c'est, on ne peut vraiment pas le faire, c'est pas possible, mais il a dit qu'il ne voterait pas la grève et que lui, il suspendait la grève. Donc, il y a des gens qui sont syndiqués à Sud qui ont repris le travail. Et évidemment, ces gens, aujourd'hui, ils apparaissent comme des traîtres, même s'ils ont fait 14 semaines de grève ou 13 semaines de grève, vu qu'ils font pas la 14e, eh bien, ils apparaissent comme des mecs qui lâchent au milieu du guet, d'autant plus que aujourd'hui, il y a une question d'honneur, parce qu'il y a des gens qui sont licenciés, et il y a une question qui est sur la réintégration de ces gens-là, quoi. Alors, ça rajoute de l'huile sur le feu, les gens sont fatigués, les gens sont tendus, il y a quand même la menace de se retrouver au chômage et à la NPE après, hein. Donc, il y a quand même toujours cette angoisse-là et cette pression-là, et il y a surtout une pression continuelle et permanente de la direction qui, vraiment, joue les Machiavel, et c'est très bien ce qu'elle fait. Je donne un exemple. Aujourd'hui, il y avait un barbecue qui était prévu. Ben oui, hein, il fait beau, faut en profiter, puis c'est du syndicalisme, hein, quand même. Hein. Et donc, il y avait un gros barbecue qui était prévu, organisé par la Fédération de l'agroalimentaire de la CGT, Ouais, qui organise, supporte et provoque de la solidarité sur une marche d'ouvriers de Frénor. C'est une boîte qui est à Cheffy, dans le Nord Pas-de-Calais, et qui a déposé le bilan suite à l'affaire de la viande de Spanghero, en fait de la présence de cheval dans le bœuf suite à ces gros abattoirs. L'association l'entreprise Fénor, elle bosse dans la bidoche, dans la viande, et elle fait du conditionnement alimentaire, et donc voilà quoi, hein, c'est un espèce de gros sous-traitant, c'est un bout de chaîne par rapport à Spanghero, et donc les commandes ayant chuté et les comptes étant déjà fragiles, elle s'est retrouvée en dépôt de bilan. Et en fait, le conseil général du Nord-Pas-de-Calais, donc c'est le conseil régional, si c'est de notre parti, le Nord-Pas-de-Calais, a filé un coup de main à l'entreprise en rachetant les locaux. Mais finalement, il leur manque 50 000 euros pour pouvoir avoir un équilibre financier et continuer. Donc il y a 168 personnes qui sont menacées, et donc ils ont décidé de faire une marche sur l'Elysée. Est-ce qu'ils arriveront jusqu'à l'Elysée ? Ça reste à voir, mais en tous les cas pour interpeller les pouvoirs publics. Donc ils sont passés par Aulnay et ils ont apporté de la bouffe, mais je sais pas s'il y avait du cheval dedans. Non, je sais pas, mais en tout cas c'était bon. Mais bon, et donc voilà, l'idée c'était de faire la bouffe sur le parking de l'entreprise. Et bien, que s'est-il passé ? Le portail du parking a été fermé, et pour défendre ce portail s'est retrouvé une soixantaine de gilets jaunes, c'est-à-dire des cadres en fait, hein, et des gens qui sont là pour foutre la merde et mettre la pression sur les grévistes, et qui ont protégé et bloqué l'entrée. Et alors, donc ça voulait dire que les gens de Frénor là, ils pouvaient pas rentrer quoi, et du coup pas de barbecue, ou alors dehors sur la route quoi, ce qui est quand même vachement moins sympa et symboliquement plus fort quoi. Alors certes, le parking il est considéré comme propriété privée quoi, mais en tous les cas ça voulait bien dire ce que ça voulait dire par rapport au rapport de force quoi. Malheureusement, il y a eu un petit débat pour savoir ce qui allait se passer, puisque les ouvriers étaient vachement en colère de cette provocation, quoi. Du coup, ils voulaient virer les mecs et laisser leurs copains rentrer, quoi. Ce qui est tout à fait normal. Et bon, les leaders de la grève, avec des arguments qui sont pas totalement dénué de sens, parce que c'est vrai, c'est aussi une provocation et faut la gérer comme telle. Mais on réussit à avoir une situation qui se déroule dans le calme, c'est-à-dire que finalement on est allé manger sur la route, bon on n'a pas trop foutu le bordel, mais quand même ça a ralenti la circulation quoi. Donc tu vois, c'est aussi cette tension là qui est aussi créée, où t'as des gens qui ont plus envie de plaisanter, qui ont envie de pas céder à la provocation, mais en tous les cas qui commencent à ne plus avoir trop rien à perdre et qui veulent augmenter d'un ton. Et alors c'est assez délicat, parce que d'un autre côté t'as des gens les gens, c'est clair, hein, c'est les leaders de la CGT d'Aulnay, quoi, qui essayent de tempérer en essayant d'avoir une démarche un petit peu dans les clous, quoi, hein, de pas trop déborder, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a des tensions. Espérons que ces tensions vont pas aboutir à un auto-étouffement du mouvement. Je crois pas, parce que au-delà de ça, il y a quelque chose qui est plus fort, qui est la solidarité et le fait que les mecs d'Aulnay et les nanas d'Aulnay, travailleurs d'Aulnay, ont vraiment décidé de pas lâcher leurs collègues de travail quoi, leurs camarades, et ils veulent vraiment leur réintégration quoi, et ils l'auront s'ils se battent jusqu'au bout, ils vont se battre pour ça quoi. Et puis je crois aussi que le travail qu'on est en train de réaliser, alors on sait qui C'est moi et quelques camarades, c'est nous, donc des gens qui ne savent pas dans des syndicats ou pas sur des groupes politiques et qui ont une conception de la solidarité telle que j'ai essayé de la décrire tout à l'heure. C'est les camarades de Toulouse, c'est les camarades de Lille, c'est tous les gens qui s'intéressent à la question de classe dans la société et à la nécessité par rapport à la situation sociale aujourd'hui, à la situation de merde dans laquelle on vit, de relever la tête et d'utiliser nos armes d'exploiter, nos armes d'opprimer, entre autres la grève, mais aussi l'action directe et l'auto-organisation, pour pouvoir en terminer, en tous les cas, peut-être pas tout de suite avec ce monde-là, parce que ça va être difficile, ça va pas se faire comme ça, mais en tous les cas, essayer de voir venir, quoi, et de construire des solidarités. Alors, ça, c'est en train d'avancer, ça se construit, je pense même que d'ici 15 jours, il va y avoir une petite surprise. Et parce qu'il y a le Salon International de l'Automobile à Barcelone dans 15 jours. Et là, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, où on peut rencontrer des travailleurs de partout. Et en Espagne, en plus, la question de l'automobile, il y a eu des ravages qui ont été faits dans les entreprises de bagnoles là-haut. Alors tout ça, c'est des choses qu'il faut travailler, quoi, qu'il faut continuer, qu'il faut augmenter. Et voilà, quoi. Dans tous les cas, on invite vraiment tous les Rémois et les Rémoises qui s'intéressent à cette question et qui ont des questions à leur poser, parce que les gens qui viennent, ils échangent, hein. C'est pas des dogmes, hein, qu'ils disent, hein. Ils expliquent, hein. Puis ils sont vraiment persuadés de pas détenir la vérité tout seul. À venir, ça aura lieu à l'Écluse. De toute façon, on se revoit dans la rue bientôt, puisqu'il y a le 1er mai, on aura l'occasion d'en discuter, et voilà, quoi. Donc le 6 mai à Reims, et le 11 à Toulouse. Plus on est nombreux, plus c'est intéressant, puisqu'on a plein de points de vue différents là-dessus, quoi, et ça sera l'occasion de discuter, voilà.
Ok, bon, donc on retient ces dates, hein, importantes d'ailleurs pour les Rémois, ouais. Puisque c'est le lundi 6 mai, d'accord, yes, à l'Écluse,
ouais.
Ok. Bon, ce week-end, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées, en particulier au Pays Basque, hein, puisque il y a des jeunes qui ont été arrêtés, mais il y a eu une solidarité importante qui a duré plusieurs jours à Saint-Sébastien. Il y avait une barrière humaine, vraiment, de apparemment plusieurs centaines, voire plus d'un millier de personnes qui se relayaient pacifiquement pour empêcher l'arrestation de 8 militants, de jeunes militants qui étaient accusés par le pouvoir espagnol d'avoir fait partie du groupe Segui. On avait déjà parlé à cette antenne. Alors la résistance a duré plusieurs jours. Finalement, bon, bah, les flics ont gagné, évidemment. Ils sont arrivés et ils ont réussi à enlever toute cette barrière humaine et puis à choper 6 de ces 8 jeunes. Plus
ils sont allés les chercher malgré la... alors qu'il y avait la protestation et la barrière, et donc ils ont franchi cette barrière.
Bien sûr, et puis la police a bien sûr été, il y a plusieurs centaines de flics qui sont arrivés, d'accord. Ils les ont retirés de force. Il y a une vidéo d'ailleurs sur internet là-dessus. Les autres étaient là de manière très pacifique, hein. C'était le sitting. Ils savaient très bien que le rapport de force n'était pas favorable, donc ils avaient libéré un lieu, comme ils disaient, sur la place certainement centrale de Saint-Sébastien, je ne connais pas bien cette ville, et ils avaient libéré un lieu de liberté, comme ils disaient, mais ça a tenu quand même pas mal de temps, à plusieurs jours, puisque ça a tenu de mardi dernier, donc il y a presque une semaine, ça a tenu donc 5 jours exactement. Donc voilà. Alors, ces jeunes sont quand même condamnés à de la prison ferme, et ils ont été condamnés, je crois, à 6 ans de prison déjà.
Ouais. Entre 6 et 8. Hein,
entre 6 et 8.
On leur reproche d'appartenir à cette organisation Segui qui est illégale, puisque comme on vous l'a exposé...
Et qui est dissoute d'ailleurs depuis.
Comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, la tactique du juge Garzón et de la justice espagnole pour pouvoir soi-disant combattre TA et ce qu'ils appellent le terrorisme, c'est d'illégaliser, donc de déclarer illégal en essayant de chercher et de trouver des liens entre les différentes organisations pour créer une chaîne chaîne d'illégalisation et donc empêcher quelque part toute expression politique sur ce sujet, quoi. Et ce qui est assez terrible, c'est que leur preuve d'appartenance à cette organisation, pour certains d'entre eux, je n'ai pas tous les cas sous les yeux, mais j'ai souvenir que certains ont été condamnés sur des preuves extrêmement faibles, de type
des
un t-shirt,
des CD, des livres, etc. Des affiches,
voilà, vraiment du délit d'opinion, quoi, clairement, quoi. Donc quand on parle de jeunes, c'est des gens qui ont entre 22 et 30 ans, et si on fait un lien avec ce qu'on a dit au début, voilà, 22 ans, 6 ans de prison, pas d'appel possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça envoie comme message à la société basque qui, aujourd'hui, avec la trêve de Théa et la démarche de Bidou, essaye de trouver une sortie pacifique et une sortie par les hauts à ces 30 ans de conflit? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est clairement une déclaration de guerre.
De la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes, ils sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. On vous retirez sur le côté, gentiment. Comme ça, il n'y aura pas de violence.
Allez, c'était Grégoire chaque semaine sur les colis Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Grégoire, une part anarchiste communiste que vous pouvez retrouver quand vous voulez sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site Aussi Libertaire.